journée spéciale sur France Culture autour du phénomène Trump, l'Amérique et au-delà, jusqu'où ira la révolution Trump? Repli identitaire, montée des populismes, rejet du multilatéralisme, guerres économiques. Rarement le monde a été aussi agité et instable, en tout cas dans l'histoire contemporaine. Alors à qui la faute? Eh bien peut-être à Donald Trump. C'était en tout cas le sens d'une récente tribune du New York Times à retrouver dans un dossier de courrier international cette semaine intitulé « Un monde de brutes ». L'Amérique de Trump ne se considère plus comme la protectrice de l'ordre libéral. L'Amérique de Trump ne craint pas d'utiliser la manière forte contre toutes les nations, amies ou ennemies. Et Washington est parfaitement disposé à fermer les yeux sur toutes les violations des droits de l'homme. Bref, à en croire le journal américain, Donald Trump aurait ouvert une nouvelle ère où la loi de la jungle régnerait en maître. Bonjour Alexandre Adler.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes historien, journaliste, géopolitologue, ancien chroniqueur ici au matin et puis auteur d'un ouvrage récent, Le temps des apocalypses. On aura l'occasion d'en parler ce matin, qui vient de paraître chez Grasset. Donald Trump, Alexandre Adler, a-t-il ouvert une ère de chaos? Quelle responsabilité porte-t-il dans la brutalisation des affaires politiques et géopolitiques de notre temps? On entendait Christian Cheneau parler de l'Arabie Saoudite, de l'affaire Khashoggi, du Brésil, etc. Quelle responsabilité pour Trump?
Bon, vous connaissez le mot de Flaubert, à qui on demandait son avis sur Napoléon III, et il disait « c'est un homme dont la décence m'interdit de parler ». Alors, c'est un peu ce que je prouve, évidemment, vis-à-vis de Trump, qui est un des personnages les plus haïssables qu'il nous est donné de contempler. Donc, on est tout de suite engagé dans une espèce de consensus général. Cet homme ne devrait pas être à sa place. Il est effroyable. Ses réactions sont profondément déplaisantes. Sa vulgarité est constante. Et sa maîtrise, c'est intéressant comme lapsus, sa maîtrise des problèmes auxquels il est confronté, en particulier son absence totale de culture du monde international, c'est une chose qui, évidemment, me retourne profondément. Je dirais presque que c'est un homme qui me donne, au fond, un sentiment de dégoût. Et je ne suis pas le seul. Et bien entendu, beaucoup de gens sont comme moi, bien entendu, à droite. Et bien entendu aussi dans l'establishment américain, je sais très bien que par exemple le général McMaster, qui a avec mépris refusé tous les égards qu'on était prêt à lui faire lorsqu'il a été chassé du pouvoir et qui était le président du Conseil de sécurité, pense exactement ce que j'en pense et beaucoup d'autres. Ce qui me retient bien entendu, c'est de me retrouver dans un concert d'avertissement ou de klaxon avec des gens que je désapprouve profondément. Par exemple, le New York Times, journal poli de la political correctness, qui ne trouverait rien à redire sur Hillary Clinton, rien à redire sur son soutien aux frères musulmans, aujourd'hui, bien sûr, aux attaques contre MBS et contre l'Arabie Saoudite. Tout ça, c'est tout à fait normal. Et donc, mes vrais désaccords sont avec ces gens-là. Mais bien entendu, le phénomène Trump est une espèce de panne qui obère toute dialectique politique et toute discussion, puisque là, on est tous d'accord.
Est-ce que l'élection de Bolsonaro au Brésil est une conséquence d'une trumpisation du monde? J'ai mis évidemment tout ça entre guillemets. Il a déjà pris un certain nombre de décisions qui créent la polémique. Christian Cheneau nous le rappelait. Il prend Sergio Moro, le juge anticorruption, à la justice. Il a annoncé aussi, là, il y a quelques heures, qu'il allait transférer l'ambassade brésilienne à Jérusalem, exactement comme l'a fait Trump. Vous avez été étonné, vous, par l'élection de Bolsonaro?
Oui, bien sûr, je l'ai été parce que je voyais le Brésil comme un pays assez un peu anarchique, avec beaucoup de confusion et parfois une crise politique qui est celle du Parti des Travailleurs de Lula, qui était un grand parti, qui a rendu des services extraordinaires à la démocratie brésilienne. Donc je m'étonnais d'une telle dégringolade. Mais en même temps, Bolsonaro ne me semble pas le personnage diabolique que, à bien des égards, Trump peut être. Je veux dire que ce n'est pas un excité complet, c'est un militaire, ce n'est pas non plus un fasciste, contrairement à ce que l'on a dit, c'est un homme autoritaire. Bien sûr, il a tenu des propos de campagne qui reflètent le ras-le-bol, au fond, de toute la société brésilienne, et qui a commencé déjà avec l'argent dépensé en pure perte par le mondial, lorsque les habitants de Rio ont commencé à regarder le gaspillage qui était fait de leurs deniers. Donc il y a quelque chose qui est un phénomène de longue durée avec la volonté d'une alternance à droite. Bon,
mais Bolsonaro n'est pas le Trump tropical que l'on dit parfois.
Mais non, parce que c'est comme toujours, comme de Lula n'était pas le gauchiste, pour le gauchiste trotskiste et que certains imaginaient aussi. C'est la même chose. La culture brésilienne est une culture quand même du consensus. Est une culture du refus de la violence. D'ailleurs, le Brésil, avec le Mexique, c'est les deux grands États qui n'ont pas connu les révolutions et les violences de la fin de l'époque ibérique. Et donc, je pense, pour ma part, que Bolsonaro n'impliquera pas vraiment son programme et que, bien entendu aussi, l'homme qu'il vient de désigner, qui est un homme un peu impartial et qui n'est pas un fou d'extrême droite, est plutôt de nature un peu déjà à faire tomber un peu la tension. Je suis persuadé qu'il y aura des mesures symboliques comme celle qui vient d'être prise sur le transfert de l'ambassade du Brésil, mais ça n'est pas très important. Ce qui est important, c'est ce qui va être fait sur le plan intérieur. Et je me prends à espérer que nous aurons le symétrique de ce qu'a été Lula, c'est-à-dire une gestion beaucoup plus prudente et beaucoup plus consensuelle des équilibres délicats du Brésil.
Mais enfin, espérons-le pour les Brésiliens.
On a de raison de se poser la question, mais pour l'instant, je sens une espèce d'hystérisation de ce phénomène qui n'est pas aussi fasciste qu'on nous le raconte. Alors que le fascisme, par exemple, c'est le régime vénézuélien qui continue de détruire maintenant de l'intérieur. Le pays, puisque tout le monde s'en va.
Vous critiquiez tout à l'heure le New York Times, mais il y a peut-être un point sur lequel vous pourriez être d'accord, c'est qu'il disait que les États-Unis ont joué quand même jusqu'ici un rôle de régulateur, de défenseur de l'ordre libéral, et que même s'ils n'ont pas toujours été irréprochables dans leur manière de conduire les affaires du monde, Washington était un facteur de stabilisation. Et on peut se demander s'il est...
Des phrases du New York Times que je n'aime pas. C'est-à-dire que, oui, je suis d'accord, bien sûr, il y a une déstabilisation introduite par Trump et qui est très grave. Mais bien entendu, raconter que l'Amérique a été le pays stabilisateur et plein de bon sens dans les périodes précédentes, c'est se moquer du monde. Et alors là, c'est du New York Times, de politiquement correct, mais c'est des trous de cul de centre droit qui sont très contents de l'Amérique et qui pensent qu'elle a rendu de grands services au monde. Je te pose la question. Il y a des régions du monde, comme par exemple la nôtre, où cette question peut être à juste titre posée, mais en Amérique
latine, dire les choses autrement.
Non.
Je vais dire les choses autrement. Jusqu'ici, on prenait les États-Unis au sérieux. On est d'accord?
Oui.
À peu près.
Ils ont fait le Chili, quand même. Ils ont fait beaucoup de choses.
J'entends bien, mais on les prenait au sérieux. Alexandre Adler, je vous propose d'écouter quelque chose. C'est la dernière Assemblée générale des Nations unies. Donald Trump arrive à la tribune et commence son discours. Écoutez, pas forcément le discours, mais les réactions.
Today I stand before the United Nations General Assembly to share the extraordinary progress we've made. In less than 2 years, my administration has accomplished more than almost any administration in the history of our country. America's so true. Didn't expect that reaction, but that's okay.
Il n'attendait pas cette réaction de Donald Trump, mais c'est ok, dit-il. Il dit que son gouvernement a fait plus que dans toute l'histoire des États-Unis. Et là, les gens rient. L'Assemblée rit, Alexandre Adler. Le désordre actuel, est-ce qu'il n'est pas lié au fait que précisément, on ne prend plus le président américain au sérieux et que finalement, il est remplacé par un vide abyssal duquel tout peut surgir?
C'est en effet le cas aujourd'hui. Il y a deux pays qui sont dans cette situation, qui ne sont plus gouvernés. Ce sont les États-Unis, c'est quand même pas un détail. Et puis c'est l'Iran, où on voit très bien qu'un certain nombre de forces réactionnaires voulaient prendre le pouvoir, voulaient le confisquer avec les Pasdaran. Ils n'ont toujours pas le moyen de le faire. Donc Rouhani est toujours président, mais il ne l'est pas. Et c'est une situation qui est tout à fait symétrique. Les deux plus grands pays...
Oui, sauf qu'en Iran, on a quand même un pouvoir bicéphale, alors qu'aux États-Unis...
Non, rien de bicéphale. Vous pensez que Rouhani peut faire deux pas en dehors de ce...
Donc vous voulez dire que c'est le guide qui, en réalité, décide de tout?
Mais il ne décide de rien, il est gâteux et il a refusé les soins parce qu'il ne veut pas que sa barbe baisse de façon dramatique avec la chimiothérapie. Non, il n'y a vraiment personne aujourd'hui qui dirige l'Iran. C'était absolument extraordinaire.
Et au fond, personne qui dirige le monde de façon générale. Emmanuel Macron...
Mais à deux degrés divers.
Absolument. Non mais Emmanuel Macron a donné cette semaine une interview, un entretien au quotidien Ouest France dans lequel il se dit frappé par la ressemblance entre la situation actuelle en Europe et celle des années 30. C'est pas la première fois qu'on fait un parallèle entre ces deux périodes-là. Qu'est-ce que ça vous inspire ?
Il a raison de dire que nous sommes dans une situation dramatique où tout est remis en cause et que effectivement la Troisième République, qui n'était pas un pays, un régime aussi lamentable que cela, était incapable de faire face aux défis que représentait l'éruption de l'Allemagne hitlérienne, bien sûr. Donc il y a un parallèle qui nous frappe. Maintenant, dire que nous vivions dans l'équivalent des années 30 est peut-être une exagération. Parce que nous ne sommes pas, aujourd'hui, dans une faillite totale des structures politiques telles que nous l'avons connue, finalement, en 1940. Nous n'en sommes pas là. Il y a des éléments de rénovation de la société. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qui se font et qui s'inventent en France, notamment dans les technologies nouvelles, mais pas seulement. Et donc, il a raison, bien sûr, président Macron, de dire ça. Mais en même temps, il ne faut pas... Il ne faut pas aller avec des clichés à l'emporte-pièce. Nous n'avons pas besoin de clichés parce que nous sommes dans l'absolument nouveau.
Attention en comparaison. Alexandre Adler,
je dirais ça.
Trump a quand même lancé quelque chose d'important, me semble-t-il. C'est une guerre économique tout azimut. Avec en ligne de mire, évidemment, la Chine, avec qui la balance commerciale continue de s'accroître malgré les nombreuses sanctions et autres taxes douanières qui ont été prises d'ailleurs de part et d'autre. Que vous inspire cette nouvelle ère où quand même, là, le libre-échangisme a laissé place au protectionnisme, à la guerre économique, ce qui quand même constitue là une rupture par rapport à ce qu'on connaissait depuis le lendemain de la Seconde Guerre mondiale, en gros?
Les idéologies protectionnistes, oui. La réalité, c'est déjà bien différent. C'est-à-dire que, comme vous le soulignez très justement, la montée des échanges à l'échelle mondiale est inexorable. Et l'on voit par exemple que la part des exportations japonaises en Chine n'a cessé de monter alors que les rapports sont, on nous le dit, exécrables. Mais une grande partie du patronat japonais n'est pas d'accord avec la ligne nationaliste de Shinzo Abe et de la vieille garde qui est aujourd'hui au pouvoir à Tokyo. Donc, il faut être prudent avec ces jugements. Je pense, pour ma part, que c'est plutôt l'idéologie protectionniste qui est actuellement à son apogée, mais pas la réalité.
Mais est-ce qu'elle vous fait peur, cette idéologie protectionniste ?
Si elle devait voir vraiment la langue, oui, elle me fait peur.
Parce que dans votre précédent livre, La chute de l'Empire américain, vous écriviez que vous n'étiez pas complètement hostile aux vues protectionnistes de Donald Trump.
J'ai essayé de dire que, en tout cas, il y avait un consensus qui dépassait de loin Donald Trump. Et je pense aussi que, effectivement, il y a eu une négligence, c'est d'ailleurs tout à fait le cas en France aussi, de l'industrie et de ses nécessités, qui a été menée par tous les gouvernements depuis, depuis George Herbert Bush, le père, jusqu'à Obama, et que, évidemment, c'est quand même un scandale national profond, et qui est une des causes, bien sûr, du succès relatif de Trump, qui a quand même été 1 million de voix derrière Hillary Clinton, malgré tout. Ça aussi, c'est un phénomène sans précédent. Mais enfin, bon, il est tout à fait certain que le fait qu'on laisse Detroit faire faillite au milieu de la présidence Obama et dans une période de reprise de la croissance, c'est un scandale total. Et je comprends très bien combien des Américains de bonne foi veulent qu'on vienne d'abord les secourir. Alors bien sûr, un peu de culture économique prouve que des mesures protectionnistes de guerre économique sont de nature à aggraver les choses plutôt que de les améliorer. Mais ceci est une autre affaire.
Le repli toujours, Donald Trump a annoncé cette semaine qu'il allait envoyer 15 000 soldats à la frontière mexicaine pour arrêter cette fameuse caravane de migrants sud-américains qui sont partis il y a maintenant plusieurs semaines. C'est autant qu'en Afghanistan. Donald Trump joue là la carte de la lutte contre l'immigration qui avait merveilleusement fonctionné lors de la campagne et qui lui avait permis au fond d'être élu en 2016. Que vous inspire cette décision et plus largement, quel regard vous portez sur cette manière de mettre à distance un pays, à savoir le Mexique, qui, qu'il le veuille ou non, Trump, appartient finalement à la même communauté de destin.
Exactement. Et là, c'est une chose que j'ai dite, peut-être là, avec un peu d'avance sur les autres dans mon petit livre sur Trump, c'est l'erreur stratégique. de cet homme, bien sûr. C'est de penser qu'il existe une frontière entre les États-Unis et le Mexique qui doit être maintenue à tout prix. Et bien sûr, ce n'est pas possible. Aujourd'hui, le Mexique est en voie d'adoption avec une communauté nord-américaine dont il est une composante essentielle. Et vouloir s'opposer à cela, d'une manière ou d'une autre, c'est évidemment s'opposer au sens de l'histoire.
Quand il remet en question le droit du sol, comme il dit qu'il va le faire.
Oui, bien sûr, tout ça est...
Qui est quand même un principe qui découle du 14e amendement.
Alors vous avez là un parallèle qu'on ne fait pas assez. C'est un certain Calhoun qui était l'homme politique, le faiseur de roi du Congrès américain dans les années d'avant la guerre de sécession. Il est mort juste avant. Et le représentant de la culture du Sud, qui voulait à tout prix non seulement défendre l'esclavage, mais l'étendre et imposer les logiques de l'esclavage à tout le Nord abolitionniste qui ne le supportait pas. Calhoun est le véritable auteur de la guerre civile. Beaucoup d'idées de Calhoun, séparatisme culturel, racisme, haine de la modernité, sont l'essentiel de la politique de Trump.
Alexandre Adler, depuis son arrivée à la Maison-Blanche, Donald Trump fait preuve quand même d'une certaine imprévisibilité en matière de politique étrangère. Il peut changer d'avis d'un tweet sur l'autre. Qu'est-ce que vous comprenez de sa politique étrangère? Quels sont les éléments qui permettent de dégager une certaine logique là-dedans? On a titré Trump ou la stratégie du chaos. Est-ce que c'est vraiment le chaos ou est-ce qu'il y a quand même une certaine logique, une structure générale?
Alors d'abord, je voudrais faire tout de suite un acte de dénonciation. Vous voyez que j'attaque beaucoup Plenel, mais là, je me retrouve dans une idéologie plénélienne. Je serais pour tenir vraiment un compte exact de tous ceux qui disent « Ah, Trump réussit quand même, Trump c'est impressionnant, Trump c'est la croissance ». Ce sont des imbéciles. Et il faudrait en tenir une recension complète, parce que bien entendu, cette économie du déficit ne va pas produire ce que les gens bêtement attendent.
Le succès économique de Donald Trump est un trompe-l'œil.
Bah oui, il est acheté sur de la dette qui coûte cher. Donc tout cela va se terminer à un moment donné sur un incident conjoncturel. On a déjà eu un mouvement à Wall Street, très dur, et puis nous en aurons d'autres. Et bien sûr... L'annonce, par exemple, que Kim Jong-un renie tous ses engagements qu'il avait pris avec Trump va certainement lui faire mal à un moment ou à un autre. Mais enfin, laissons ça. Ce que je pense, effectivement, c'est que nous avons ici une espèce d'explosion réactionnaire qui, bien entendu, ne peut pas durer, ni sur le plan des réalités économiques, ni sur le plan des réalités humaines. Et bien entendu, on voit par exemple que la population en Californie et même en Arizona n'est pas si enthousiaste que cela des mesures de bannissement des Mexicains, parce qu'on sait très bien que l'économie repose déjà sur eux en grande partie. Donc tout ceci va finir par se transformer. Et d'ailleurs, on a eu quelques réactions, notamment la séparation des enfants et des familles et quelques autres mesures qui ont montré quand même les limites auxquels Trump se confronte.
Alexandre Adler, vous êtes historien, vous adorez l'histoire. Le président Nixon avait mis en place, vous en souvenez, en pleine guerre du Vietnam, une tactique un petit peu iconoclaste avec son conseiller Henry Kissinger, qu'on avait appelé la théorie du fou. Il s'agissait de montrer qu'on était totalement imprévisible, irrationnel, pour contraindre l'adversaire à négocier. En l'occurrence, le but, c'était de pousser Ho Chi Minh à accepter de faire la paix en lui faisant croire que Nixon était prêt à tout, et y compris à utiliser la bombe atomique. Est-ce que Trump a quelque chose de Nixon? Est-ce que Trump nous joue la théorie du fou ou est-ce qu'il l'est carrément?
Non, Nixon était un homme avec un caractère très difficile et des faiblesses qu'il a payées au prix fort. Mais bien entendu, ce n'est pas ses faiblesses qu'on lui a fait payer. C'est sa politique de détente. C'est la paix avec la Chine. C'est la paix avec la Russie. C'est cela que les conservateurs trouvaient absolument insupportable. Et c'est la vraie racine du Watergate. Maintenant, deuxièmement, Nixon a peut-être eu cette théorie du fou, mais enfin, c'était pas central. Ce qui était central chez lui, c'est l'idée de revenir, comme Kissinger, à une culture européenne qui n'était pas celle de la guerre froide, mais des intérêts des puissances.
Mais est-ce que Trump joue le fou? Il joue l'irrationnel pour
non, il est
contraindre.
Fou. Il est fou. C'est un fou, un fou vulgaire qui a réussi dans une espèce de destruction complète des structures politiques américaines, et ça, c'est ça le vrai phénomène très important, à passer dans des conditions étonnantes. Et comme il n'a pas la moindre idée, il en change. Et puis, bien entendu, de temps en temps, il est obligé de changer à court terme parce qu'il a fait, quelque chose qui peut lui être reproché, comme par exemple les embrassades avec les Russes, qui sont très, très nombreuses. Alors, de temps en temps, il fait un peu de... Il attaque les Russes, puis en plus, il va les embrasser. Enfin, tout ça n'a aucune importance. Qui perd son temps à discuter de Trump perd vraiment son temps.
Alexandre Adler, on poursuivra nos discussions dans quelques instants vers 8h20 pour cette journée spéciale L'Amérique et au-delà, jusqu'où ira la révolution. Je rappelle que vous venez de publier Le temps des apocalypses chez Grasset. On se retrouve dans quelques minutes. Il est 8h sur France Culture.
Les matins de France Culture jusqu'à 9h. Florian Delorme.
Et on poursuit donc cette journée spéciale L'Amérique et au-delà, jusqu'où ira la révolution Trump. On va peut-être parler un petit peu, Alexandre Adler, si vous le voulez bien, j'imagine, oui, de votre livre,
oui.
Le temps des apocalypses chez Grasset. D'abord, j'ai été frappé par une chose, Alexandre Adler, c'est que vous consacrez assez peu de lignes à Trump. Alors, certes, c'est un ouvrage qui se plonge très profondément dans l'histoire du monde. Certes aussi, vous aviez déjà beaucoup évoqué le cas Trump dans votre précédent ouvrage. Mais le président actuel n'apparaît que très loin dans votre introduction. Lorsqu'il apparaît, vous glissez très très vite sur le bilan de son prédécesseur. Faut-il comprendre, Alexandre Adler, que finalement... Donald Trump est un épiphénomène dans les transformations géopolitiques qu'on est en train de vivre aujourd'hui?
Il ne l'est pas au sens où Calhoun, dont je parlais, a déclenché la guerre de sécession par ses outrances. Mais en même temps, on ne se souvient pas de Calhoun quand on n'est pas spécialiste de la guerre de sécession. On se souvient de Lincoln, on se souvient d'un certain nombre d'hommes politiques de premier plan, même de John Quincy Adams, dont Spielberg a fait le héros de la lutte pour la libération d'esclaves, qui est un épisode qu'on ne connaissait plus. Donc en fait, je pense effectivement que la parenthèse Trump sera refermée et qu'à ce moment-là, il y aura un rejet terrible par les Américains de ce moment d'aberration, en se disant « mais sommes-nous cela ?» Non, nous ne le sommes pas.
Ouais, alors c'est un pari, parce que pour le moment, la popularité de Donald Trump tient. Et on est là à la veille des midterms. Quand on regarde un peu les sondages, on s'aperçoit de quoi? On s'aperçoit qu'en réalité, les choses sont extrêmement serrées, alors que traditionnellement, le président qui est au pouvoir, le camp du président qui est au pouvoir, perd les élections de mi-mandat. Il y a quand même quelque chose d'assez étonnant, d'assez frappant de voir qu'il est toujours aussi populaire et que les gens continuent de voter pour lui.
Il est populaire dans une partie de l'opinion, mais il ne l'est pas ailleurs. Par exemple, tout le monde le présente comme républicain. Trump n'a jamais été inscrit au Parti républicain avant de se présenter à une primaire. Et il lui est arrivé de donner beaucoup d'argent au Parti démocrate. Et puis, par ailleurs, beaucoup d'élus républicains ont le même dégoût de Trump que le reste de la population. Vous savez, McCarthy a été un phénomène très important aux États-Unis. Il a pollué toutes les premières années d'Eisenhower, qui était obligé de faire avec cette démagogie anti-gauche et d'un anticommunisme flamboyant pendant des années. Et à ce moment-là, tout le monde pensait que Eisenhower ne pourrait pas gouverner. Et puis un beau jour, c'est venu. Et c'est venu avec la télévision, un média qui naissait, et dans une retransmission d'une séance du Congrès, où un vieux sénateur républicain, conservateur, mais à l'ancienne, s'est énervé contre McCarthy, a dit tout d'un coup ce que tout le monde voulait entendre, qui a dit « Is there any decency left in you, sir ? Est-ce qu'il reste un peu de décence en vous ?» Et alors le Congrès tout entier a ri, à peu près comme l'Assemblée générale des Nations Unies de Trump, là, et c'était fini. Ensuite, ça a été une espèce de réaction en chaîne.
Sauf que là, c'est tout à fait l'inverse. C'est-à-dire que les nouvelles technologies permettent précisément à Trump d'être de plus en plus populaire. C'est même elle qui le porte.
Mais non. Je vous donne rendez-vous. Bien sûr que non. Il est dégoûtant. Et les gens le savent. Et il fera des erreurs, bien sûr, parce qu'il en fait tous les jours. Mais un beau jour, il y aura une perception.
L'histoire aura raison, lui.
Oui, je pense. Moi, c'est la raison pour laquelle je vous avais raison de le dire. Bon, j'avais déjà écrit sur Trump un petit livre, donc ça m'a un peu ralenti pour ce livre. Mais au fond, faisant une espèce de vision des États-Unis comme je le fais de la Chine, comme je le fais d'autres, bon, je me suis dit, eh bien, il faut parler de Trump, mais il ne faut pas lui donner l'importance qu'il n'a pas.
Ça apparaît très clairement dans votre livre. Très clairement.
Bah écoutez, je vous remercie parce que c'est ce que je pense.
Mais vous dites quand même une chose très importante.
Par contre, la crise de la société américaine, oui.
Justement, venons-en.
Ça, par contre, c'est sérieux.
Parce que vous dites, page 488, quand même, je vous rends cela, vous dites à propos de l'élection de Trump, c'est un tournant capital dans l'histoire américaine et le pessimisme prévaut sur le sort futur de l'aventure. Pourquoi pensez-vous qu'il faille s'attendre à l'effondrement de l'Empire américain comme vous l'écriviez dans votre précédent livre? Quels en seraient peut-être les principaux signes annonciateurs? Et qu'est-ce qui fait que, selon vous, aujourd'hui, les États-Unis n'ont pas la capacité de conserver la place qui a été la sienne tout au long du XXe siècle?
D'abord parce que, tout simplement, le monde a changé et que, bien entendu, les États-Unis représentaient à peu près 51% ou 52% du PIB mondial. Et il était le seul capable de prêter de l'argent, c'est le plan Marshall, en 45-46. Aujourd'hui, c'est un des pays les plus endettés de la Terre. Et qui, bien entendu, attire par le dynamisme de son économie, notamment de ses technologies, mais qui est de loin réduit par rapport à ce qu'était son rôle autrefois. Deuxièmement, il n'y a pas seulement les pays du tiers-monde, de l'ancien tiers-monde qui ont changé, mais même l'Europe. Même si on additionne aujourd'hui tous les pays européens ensemble, leur PIB est le même que celui des États-Unis. Donc, en fait, malgré les apparences, parce que la division de l'Europe a atteint un code d'alerte impossible, mais sur le plan de l'économie elle-même, l'Europe fait jeu égal. Mmh. Et puis, bien entendu, on passe à la Chine. Et ce qui tue aujourd'hui l'hégémonie américaine, c'est justement le baiser. Car la Chine n'est pas anti-américaine. C'est ça qu'il faut le comprendre. Mmh. Et l'intelligence de Xi Jinping, c'est être le moins anti-américain de tous les présidents de la Chine, tout en étant autoritaire et un vrai patron. Mais il a été aussi façonné par un personnage très important que je signale dans mon Anatomie de la mairie et de la Chine, l'ancien ministre de la Défense, Kang Piao, qui a été constamment, au temps de Deng Xiaoping, un partisan de l'Alliance américaine et qui l'a maintenu contre des courants contraires pendant des années. Et c'est exactement ce que pense Xi Jinping. En embrassant les États-Unis, en évitant tout anti-américanisme, vous voyez d'ailleurs, ça n'est pas du tout important aujourd'hui dans eh bien, il tue l'hégémonie américaine. Car maintenant, la Chine est de moins en moins en manière de ne fait plus peur. Bien sûr, il y a beaucoup d'imbéciles qui continuent à raconter ici même, dans ces antennes. Mais bon. Personne ne prend cela au sérieux. On sait bien que la route de la soie est un projet pacifique. Et on sait très bien aussi que les Chinois ne feront pas d'anti-américanisme.
On va essayer, bien sûr, de parler de la Chine. On va aussi parler de la crise européenne. Parce que pour vous, c'est un fait géopolitique majeur. On va y venir. Mais je reste encore un instant sur les États-Unis. Je vous demandais pourquoi, comment comprendre, au fond, que l'opinion américaine soutienne encore aujourd'hui, en tout cas, à ce point, Donald Trump. Il y a peut-être un autre facteur.
Il y a tous les hillbillies.
Alors, il y a peut-être un autre facteur.
C'est tous les malheureux, tous les gens qui ont été rejetés par le mode de développement actuel.
Oui.
Et pour eux, c'est un vote des tripes.
Et il y a peut-être un autre facteur que je voudrais qu'on discute tout de suite, c'est la question des élites américaines. Parce que vous êtes très dur dans votre livre avec les élites américaines,
oui.
De droite comme de gauche d'ailleurs. Vous dites qu'elles sont l'odieuse nouvelle classe des années 2000. Je vous cite page 501. En l'espace de quelques années, cette classe dirigeante a montré un niveau d'incompétence qui justifie à lui seul la volonté d'émancipation des autres pôles de puissance de la planète. Donald Trump n'est pas né de rien, mais venait d'un chaos, notamment intellectuel, déjà bien installé, des Bush à Clinton et pour finir à Obama. Pour vous, l'élite politique porte une responsabilité dans l'effondrement que vous décrivez.
Oui, bien sûr. Bien entendu. Et ce que l'on voit, c'est que la baisse du niveau d'exigence, même des universités, on voit que les places s'achètent, qu'on voit que les business schools ont une importance tout à fait démesurée, alors qu'on y apprend des recettes par rapport à ce qu'était l'université fondamentale. Et que donc, petit à petit, nous avons un effondrement du niveau, tout simplement, des élites. Je ne parle pas des malheureux qui font des universités, font leurs cours, apprennent un peu des choses dans des universités locales.
C'est au fond une analyse que partagerait Donald Trump.
Oui, bien sûr, mais lui, il est disqualifié. Moi, je suis quand même engagé, normalien, je peux quand même dire ça. Tandis que Monsieur Trump n'a rien à dire. Et c'est une chose importante.
Il est quand même le président des États-Unis.
Et alors, il n'a rien. Il a fait 3 faillites, 4 faillites. Ses entreprises ne sont rien du tout. Il a cru qu'il allait gagner de l'argent en achetant de l'euro. Il a perdu 20% rien que sur le change, parce qu'il y a eu une montée de l'euro, que évidemment, s'il avait écouté Draghi, il aurait dû s'en rendre compte, mais il préférait écouter M. Philippot ou ses équivalents américains. Ce sont des nullités. Et en quoi l'opinion de M. Trump m'importe-t-elle? Elle ne m'importe pas, absolument pas, sinon par les ravages qu'il fait.
Vous parlez de Draghi, justement, et donc on va passer à l'Union européenne, parce que vous dites qu'en réalité, Draghi, c'est le véritable homme fort de l'Europe. C'est lui qui a sauvé, d'une certaine manière, l'euro et qui donc a sauvé l'Union européenne. Vous avez l'air de considérer qu'en réalité, il ne faut pas attendre en Europe un homme ou une femme providentielle, mais qu'il faut absolument renforcer les institutions. C'est là l'essentiel et c'est ça qui permettra, peut-être, à l'Europe de sortir de la crise.
Et les institutions ne sont pas luxembourgeoises. Le fait d'avoir porté cette petite ville de province extrêmement sympathique et dont le plan a été conçu par Vauban, c'est-à-dire de Luxembourg, comme un État sérieux, est une façon de ne pas vouloir qu'il y ait des institutions européennes. Bien entendu, Draghi a 100 fois plus d'importance que les différents politiciens luxembourgeois qui se succèdent devant la volonté des Européens de n'avoir pas de volonté. Comme disait Max Weber, le désir de l'impuissance, Wille zu Ohnmacht.
Mais eh Alexandre Appert, je suis prêt à vous suivre sur cette idée-là, sauf que ce qu'on voit bien, c'est que renforcer les institutions, personne, en tout cas la majorité, ne semble pas être d'accord avec cela.
En tout cas, les
peuples sont de plus en plus séduits par des responsables qui portent un discours de dénonciation des institutions européennes, précisément, qui leur apparaît, que ce soit vrai ou faux d'ailleurs, comme ayant porter atteinte à leur souveraineté. Alors comment renforcer les institutions tout en tenant
de leur capital?
Comment faire, Alexandre Adler, pour renforcer ces institutions européennes, puisque vous dites que c'est essentiel, tout en tenant compte de cette colère? Comment redonner de la souveraineté aux États tout en renforçant l'Union européenne? Est-ce possible?
C'est une vraie question que vous posez. Et bien entendu, un peu de raison me conduira à vous dire oui, c'est mal parti. Mais je ne pense que les peuples ont de l'invention. Et par exemple, Draghi, qui aurait cru qu'il aurait eu le courage et le culot de s'opposer à la Bundesbank et à tous les monétaristes allemands en leur disant « moi, je fais ce que je dis ». Et quand il a commencé à dire « nous ferons tout, y compris donc sortir absolument toutes les réserves de l'Europe pour éviter la faillite de l'euro », eh bien il a produit un effet sur les marchés tout à fait inattendu. Et depuis lors, on croit à sa parole. Et il a commencé à subvertir tout à fait consciemment les règles admises. Par exemple, petit à petit, les institutions européennes achètent de plus en plus d'actions et de papiers, notamment d'obligations, des pays qui, contrairement aux règles que les Allemands avaient jusqu'ici imposées. Et ceci a amené un affermissement de l'euro et une remontée de l'euro qui reflète non pas, bien sûr, la situation générale, mais la bonne santé d'un certain nombre d'économies européennes qui sont devenues des locomotives. Et le résultat est là, c'est-à-dire que l'euro a gagné 20%. J'ai entendu encore au journal qu'on n'était pas très loin de la parité euro-dollar. C'était des choses impensables autrefois. Eh bien ça, c'est Draghi. Et ça veut dire que la volonté d'un homme politique et bien entendu sa compétence, ce n'est pas inutile, lui ont permis de subvertir un certain nombre de règles impossibles qu'on voulait imposer pour corseter la volonté européenne.
Sauf que les peuples vont vous répondre, mais quelle légitimité politique a-t-il? Quelle légitimité démocratique a-t-il?
Mais sa légitimité, c'est ça, c'est ses capacités d'avoir apporté des solutions qu'on pensait impensables. Et c'est là sa légitimité. La légitimité, c'est qu'un homme comme Philippot n'a rien aujourd'hui dans la vie politique parce qu'il a poussé Marine Le Pen à tout simplement à dire des bêtises au moment où tous ses électeurs se disaient « mais quand même, l'euro, ça tient ».
Depuis quelques mois, Alexandre Adler, on constate une montée en puissance, c'est peu de le dire, des populismes en Europe. Hongrie, Pologne, Autriche, maintenant l'Italie, ça ne fait que s'étendre. Même l'Allemagne est le théâtre, on le voit, d'une percée de l'extrême droite populiste comme on en avait pas vu depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et là encore, c'est quelque chose dont vous parlez assez peu dans la partie consacrée à l'Europe sur votre livre. Pour quelle raison? Est-ce que vous pensez qu'on surestime d'une certaine manière la menace que représenteraient les populismes européens?
On a tout à fait raison de les dénoncer et on a tout à fait raison de les voir de près parce qu'ils sont dangereux. Mais cela dit, je pense pour ma part que un groupement de peuples comme l'Europe d'aujourd'hui ne se suicidera pas. Et que donc, bien sûr, la victoire partout des populistes serait un suicide collectif. Je pense d'ailleurs qu'en Pologne, le pire moment...
Il n'y a pas que le suicide pour mourir. Il peut y avoir aussi un étiolement progressif qui conduit à l'effondrement de l'Union européenne.
Nous n'y sommes plus. Nous n'y sommes plus parce que finalement, il existe, et c'est ce qui était la grande leçon de l'élection présidentielle française, un terreau européen suffisamment fort pour à un moment donné arrêter la vague. Ça a été fait en Autriche avec la victoire d'un président issu des Verts, qui n'est pas un parti très populaire en Autriche, par tous ceux qui ne voulaient pas la victoire, la poursuite de la politique du regretté Haider, c'est-à-dire de l'extrême droite autrichienne, baptisée droite populaire. Ce n'est pas possible. Je veux dire qu'il existe malgré tout dans les jeunes générations, dans les parties productives de la population, suffisamment de gens, y compris en Pologne, y compris en Hongrie, qui, évidemment, peut agir. Mais bien sûr, il ne faut pas faire n'importe quoi. En diabolisant des réactions qui sont viscérales, mais qui ne sont pas nécessairement fausses. Par exemple, les Hongrois, les Polonais vous disent « Mais écoutez, nous sortons de 40 ans de socialisme, de sous-croissance, de tout ça, et vous nous demandez maintenant des sacrifices alors que nous avons encore énormément à faire. » Ah, c'est un peu juste. Et quand on voit le Brexit qui s'en prend tout de suite, quand même, au peuple polonais. Vous savez que les Polonais ont donné à eux seuls, pendant la bataille d'Angleterre, plus de pilotes, à peu près 7 à 8 fois les Français libres dont on fait grand cas. Ben voilà, la Pologne s'est battue avec l'Angleterre, avec un courage extraordinaire, notamment dans le ciel de Londres. Et qu'est-ce qu'on fait des Polonais ? On les met au rang de paria en Angleterre, et après on attend que les Polonais réagissent calmement, mais non, ils ne peuvent pas réagir calmement.
Voilà ce que produit l'oubli. Alexandre Adler, toujours sur cette question de la crise européenne, vous expliquez dans votre livre qu'il faut absolument trouver une manière d'associer la Russie au projet européen. Moscou vous semble essentiel dans l'avenir du projet européen. Alors pourquoi ? Et comment associer Moscou alors même que d'abord, ça semble pas être une priorité du régime actuel, et que par ailleurs, on a quand même de nombreux pays d'Europe centrale, anciennement sous le giron soviétique, qui craignent encore énormément l'influence russe.
Ce n'est pas eux qui vont être un moteur dans ce domaine, et leur méfiance peut se comprendre. Mais en fait, il s'agit de la France, essentiellement de la France d'ailleurs, et de l'Allemagne, et bien sûr aussi d'une Angleterre qui revient un peu à la raison.
Pourquoi c'est essentiel d'associer la Russie ?
Eh bien d'abord parce que c'est l'un des plus grands peuples européens, et que c'est un peuple européen, c'est-à-dire que même au fin fond de la Sibérie, personne n'a l'idée qu'ils vont devenir le protectorat de la Chine. Personne ne veut de ça. Personne ne nie la puissance de la culture européenne. Et bien entendu, une part de la réaction russe, c'est les différentes reculades et les différentes humiliations auxquelles nous avons laissé les choses se faire. Rappelons le départ de Fabius, alors que l'accord n'est même pas encore signé et qu'un coup d'État se prépare à Kiev. Non mais c'est absolument invraisemblable, l'attitude qu'on a vis-à-vis des Russes. Rappelons l'attitude du président Macron, qui a boycotté au salon du livre des écrivains russes qui étaient tous anti-Poutine. C'est-à-dire qu'on a réussi à poutiniser la totalité de l'intelligentsia russe, qui n'a pas beaucoup d'enthousiasme pour le style du président. Bref, nous sommes en train de faire des Russes le mauvais objet, alors que tout le monde sait que c'est un pays qui a fait un progrès fantastique depuis la chute du communisme, et qu'il n'est plus exactement ce que l'on croit. Et par ailleurs, nous avons tout à fait tort, parce que c'est extraordinaire de le constater, mais c'est ainsi. Alors que l'Allemagne est largement plus présente et fait des efforts beaucoup plus importants vis-à-vis de la Russie que nous ne le faisons, c'est quand même nous que les Français, les Russes préfèrent. Regardez Andrei Makin, par exemple, qui devient académicien français et prix Goncourt, et qui écrit en français alors que ce n'est pas sa langue maternelle. Regardez un homme comme des grands cinéastes, comme mon ami Pavel Lungin. Ils sont tous à regarder vers Paris. Et c'est un fait culturel.
Poutine ne semble pas regarder beaucoup vers Paris.
Écoutez, Poutine est d'abord un grand timide. C'est un type qui est absolument incapable de répondre de façon spontanée. Et ça, c'est une histoire de, c'est l'histoire assez tragique d'ailleurs de sa jeunesse. J'ai observé par exemple que Macron lui donnait du tu long comme le bras parce qu'ils sont tous les deux chefs d'État et que imperturbablement, le regardant de son œil, de ses yeux à la fois livides et un peu violents, Poutine lui répondait oui, je, vous. Il a vous voyé, il a vous soyé long comme le bras. Ça, c'est Poutine. Alors, ne pensez pas que c'est un homme qui soit aussi antipathique que ça. Mais par contre, il a...
Je ne pense rien. Moi.
Non, mais bien sûr, vous êtes un analyste. Mais bien sûr que personne n'a envie de passer un week-end avec Poutine. Mais par contre, je vous assure que cet homme est bien mieux intentionné que ce que les gens imaginaient. En particulier, dans l'affaire ukrainienne, il a tout fait pour faire tomber le nationalisme anti-ukrainien dément qui s'est emparé de Moscou et de ses médias à ce moment-là. Et il a fait ce qu'il fallait pour ouvrir une porte de sortie au gouvernement ukrainien actuel. Et il a essayé, avec Angela Merkel et François Hollande à l'époque, de trouver un certain nombre de formes de compromis pour lesquelles il a craint à juste titre d'être tout simplement flingué.
À propos justement de ces liens ou de ces rapports qui seraient pas suffisamment fort entre la France et la Russie. Vous avez donné une interview récemment, je crois que c'était dans l'Express en juin dernier, dans laquelle vous dressiez un parallèle entre la France et la Russie dans la manière de déployer des efforts destinés à endiguer le djihadisme. Je vous cite. Un autre pays est comparable à la France, la Russie, pour qui la sauvegarde de la Syrie est une affaire intérieure. Ainsi, elle est en train de mener une politique pragmatique au Moyen-Orient qui s'avère complètement convergente avec celle de la France, qui, sous l'impulsion de Jean-Yves Le Drian, a consenti de grands sacrifices pour contenir les djihadistes au Sahel. L'opération française au Sahel est comparable à l'intervention russe en Syrie. Je peux comprendre, entendre l'idée qu'il y a une forme de convergence, mais est-ce qu'on peut comparer dans les méthodes?
Non, bien sûr que non. On voit bien que la France, d'abord, a une compréhension interne de l'Afrique occidentale et de ses problèmes. Elle a des cadres, elle a fait beaucoup aussi, toujours, pour tenir ses pays à bout de bras. Donc non, c'est pas comparable.
D'accord.
Mais en même temps, ce qui est comparable, c'est que autant la Russie était dans un très très mauvais, dans une très mauvaise affaire avec l'Ukraine, Poutine a eu l'idée tout d'un coup, et c'est pas le lui seul, c'est aussi l'extraordinaire politicien mongol Shoigu, qui est maintenant le ministre de la Défense, de sortir d'un coup, comme on fait sauter une porte là, d'un coup d'épaule, du dilemme ukrainien en reposant le problème syrien. C'est-à-dire, en fait, et là, on voit bien que les Russes ont une politique tout à fait modérée, une politique de mise en avant d'une solution pacifique et d'un sauvetage d'un État syrien qui ne serait d'ailleurs plus gouverné par Bachar Assad.
Alexandre Adler, avançons, hein, on va venir quand même à la Chine. C'est évidemment très difficile de traiter tous les sujets qui sont dans ce livre.
Ça m'a été difficile.
Quasiment 700 pages, ça vous a été difficile j'imagine à écrire, ça m'est difficile à analyser dans son ensemble. Mais quand même, il faut parler un petit peu de la Chine, Alexandre Adler.
Avec plaisir.
Face au repli américain, la Chine se verrait bien peut-être le nouveau chef de file du multilatéralisme, de l'ordre libéral peut-être pas, mais enfin bon. Jusqu'où la Chine peut profiter réellement de ce retrait américain pour s'imposer comme la nouvelle superpuissance du 21e siècle?
Ben, c'est toute l'idée qu'a aujourd'hui le président Xi Jinping en proposant cette route de la soie, qui est dans la tradition chinoise, puisqu'en fait, le point par lequel la Chine s'est nourrie en permanence des cultures et des technologies du monde extérieur, ça n'a pas été la mer. La mer a été toujours le moyen de l'invasion au 19e siècle. C'est là que les puissances extérieures ont dominé la Chine. C'est pour ça que, à l'inverse, la Chine est en train de se barricader sur son espace maritime en faisant une muraille de Chine de la mer, comme dit très poétiquement le président. Mais non, c'est en fait la route de la soie qui a été le point d'échange. Et c'est très intéressant, ça a beaucoup de sens, parce que là, c'est un endroit où les équilibres peuvent être maintenus. Et c'est ce que veulent les Chinois, c'est-à-dire arriver à peu près idéalement vers Lyon, qui est la ville avec la ville française qui s'est toujours passionnée pour la Chine jusqu'à Raymond Barre. Et donc jalonner ces étapes d'un certain nombre d'accords bilatéraux, c'est-à-dire de redonner au rapport avec l'Europe une importance qu'elle n'a pas. C'est une stratégie sur le papier, formidable.
Mais est-ce qu'elle peut lui permettre, et j'y reviens à ma question, de devenir la nouvelle hyperpuissance pour le 21e siècle et qu'elle...
À mon avis, non. Pourquoi ? Voilà. Parce que la Chine fait encore, c'est actuellement à cause du gouvernement japonais, un de ses dadas, c'est de faire face au Japon et de le réduire. Alors c'est une politique qui peut se comprendre.
Vous annoncez un rapprochement à terme avec le Japon, entre la Chine et le Japon.
Les chiffres sont là. C'est-à-dire que l'économie japonaise continue imperturbablement de pénétrer en Chine. Et la technologie japonaise est imperturbablement présente en Chine. Et la fascination que les Chinois ont pour le Japon n'est pas inférieure à celle que les Japonais éprouvent pour la Chine. Donc à un moment donné, un homme politique, et je pense que Xi Jinping serait tout à fait capable de le faire, est capable de faire un grand retournement. Et de dire oui, le Japon d'autrefois, nous le combattions, mais maintenant le Japon d'aujourd'hui, nous pourrons nous entendre. Et si la Chine et le Japon agissent ensemble... Là, c'est qu'une chose où, effectivement, la Chine peut devenir la puissance dominante. Non pas en chiffres, mais en dynamisme.
Xi Jinping peut être l'homme du rapprochement avec le Japon, et aussi peut être l'homme, dites-vous, sinon la mise à distance, mais carrément l'élimination politique de Kim Jong-un.
Ah ça, je pense qu'il le veut. Parce que je vois en Xi Jinping l'anti-Gorbatchev, par excellence. Gorbatchev était totalement séduit par son image extérieure. C'était en fait un espèce de personnage du fashion. Et d'ailleurs, il a été fasciné par cela et on ne pouvait pas le tenir. Et d'ailleurs, il a fait quelques bêtises très importantes. Je lui dois, par exemple, la mort de mon cousin Walter Roman, qui a été assassiné par Ceausescu dans son lit d'hôpital, parce que, tout simplement, Walter Roman était l'homme qu'Andropov voulait mettre à la tête de la Roumanie. Et quand Gorbatchev est arrivé, il dit « Mais la Roumanie, ça va, t'as rien, on va pas se perdre de temps. » Et puis après, il a fini par faire l'opération, mais tard. En tout cas, Xi Jinping, c'est pas le genre. Lui, quand il veut quelque chose, il le fait. Et je pense que ses liens avec l'armée nord-coréenne et ses liens avec toutes les forces anti-Kim Jong-un sont suffisamment nombreuses pour qu'à un moment ou à un autre, il lui fasse le coup du lapin. Mais évidemment, il attendra son heure.
Merci beaucoup, Alexandre Adler. Vous restez avec nous pour la revue des matins.
Alors, j'ai un petit mot à dire quand même.
Alors, vous n'êtes pas parti encore, mais allez-y.
Juste un petit mot. C'est que je m'étais promis de dire un mot sur la situation au Moyen-Orient. Et je pense que nous assistons actuellement avec la confrérie des frères musulmans qui est loin d'être un endroit négligeable, et notamment en Turquie, à un bashing de mon ami MBS. Et des réformateurs saoudiens, qui est absolument extraordinaire. Bien sûr qu'il a commis des erreurs, mais ce ne sont pas ces erreurs qu'on lui reproche, notamment de l'intérieur. C'est effectivement tout ce qui a été fait de moderniste, y compris bien sûr une politique étrangère nouvelle, et même ses rapports avec Israël. C'est cela qu'on lui reproche. Et c'est bien entendu les frères musulmans qui ont tous leurs moyens, qui le font et qui mènent cette campagne. Et je voudrais simplement faire une dernière remarque. Si vous regardez la Turquie, qui est un pays qui est cher à mon cœur, mais que je vois aujourd'hui défiguré, alors défiguré bien plus encore que par Trump, d'ailleurs Trump était aussi un peu comme Erdogan. Eh bien, je vois, if you believe Erdogan, you can believe everything. Or, tous les témoignages que l'on voit contre l'Arabie Saoudite viennent d'un homme, Monsieur Erdogan.
Bon, Alexandre Adler, on s'arrête là parce que sinon on a déjà explosé la pendule. Vous restez avec nous.